19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Les uns y voient des déesses-mères, un idéal féminin, gardienne de la maisonnée et du feu, reflet d'un univers matrilinéaire. D'autres n'ont pu s'empêcher d'y entrevoir l'expression symbolique de la femme, de la fécondité de la grossesse, celle d'une sexualité primale, alors que tout au contraire, les plus progressistes y perçoivent une codification, celle de l'encadrement de la sexualité et du désir masculin. On en connaît 200 entre Europe et Sibérie, et les plus connus portent les noms de Willendorf, Lespuc, Tursak, Donny-Wessonitch, Kostensky, Montpensier ou Sireuil. C'était sans compter sur la découverte de la Vénus de Renancourt, minuscule Vénus de 23 000 ans, tout récemment exhumée d'une zaque d'Amiens par une équipe de l'INRAP et du CNRS. Avant de retrouver Marcelotte, incontournable spécialiste de la préhistoire et notamment de cette période, le Gravettien, je me suis rendu à Amiens pour rencontrer Clément Paris. Clément Paris, archéologue de l'INRAP et heureux découvreur de cette merveille issue du fond des âges.
C'est toujours le dernier jour que l'on trouve ce que l'on cherche, voire ce que l'on ne cherche pas.
Alors c'est toujours ce que l'on m'a dit, hein. J'ai de nombreux collègues qui me parlaient de ce dernier jour, ont fait les belles découvertes. Jusqu'ici ça ne m'était pas arrivé, j'ai toujours eu la chance de trouver les beaux objets en début d'opération. Bon, ben, ça n'a pas été le cas pour cette statuette-là, où on l'a effectivement trouvé dans les derniers coups de truelle, juste avant de remblayer le gisement.
Alors c'est une découverte formidable, extraordinaire, c'est sublime. Une Vénus, moi je vais dire Vénus, une Vénus gravettienne.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une statuette qui est une représentation féminine, qui mesure 4 cm de haut et qui date de 23 000 ans. Donc, on est dans la culture du Gravettien qui s'étend donc de moins 28 000 ans à moins 22 000 ans.
Elle était où? Elle jonchait le sol comme ça?
Elle est posée sur le sol que l'on fouille actuellement. Elle n'est pas dans une fosse ou quoi. Elle était au même niveau que les autres vestiges que l'on trouve.
Alors, ces femmes, elles sont représentées de manière très, très particulière. Il y a quelques références hors normes, Lespuc, Willendorf par exemple, vous pourriez les décrire?
Alors toutes les statuettes féminines ont toutes les mêmes canons esthétiques, c'est-à-dire qu'on a des attributs féminins très prononcés, souvent des poitrines opulentes, des ventres rebondis, des fesses exagérément projetées vers l'arrière ou en tout cas très larges. Et puis à l'opposé, on a donc des extrémités qui sont très peu représentées. On a souvent des bras atrophiés, parfois posés sur la poitrine ou en tout cas qui courent le long du corps. Mais pour le cas de celle de Renancourt, les bras sont juste distingués par deux petites incisions de part et d'autre de la poitrine. Et puis les jambes, c'est pareil, hein, donc à Renancourt, toutes les statuettes s'arrêtent au niveau du genou, et on a rarement des visages, on a juste la plupart du temps une tête qui n'est représentée que par une simple sphère, donc sans détails anatomiques.
Alors celle-là, elle a une particularité, elle aurait une sorte de coiffure sur la tête?
C'est vraiment la particularité de celle-ci, il y a une coiffure qui est représentée par des incisions en quadrillage. Donc ces incisions font tout le tour de la tête, le sommet de la tête également, et puis elles s'arrêtent au niveau du visage.
C'est-à-dire que ce n'est pas personnalisé, on n'est pas sur un individu, on serait peut-être sur une représentation plus large, une sorte de vision de la femme et non pas d'une femme?
Voilà, tout à fait. C'est les hypothèses qui sont en cours actuellement. On ne représente pas le visage. On a quelques statuettes qui ont quelques détails, hein, la plus connue étant la dame à la capuche de Brassempouille, où on a un visage. Mais pour l'ensemble des autres statuettes gravettiennes, on a rarement ces détails-là. L'accent est plutôt mis sur les attributs féminins, le corps féminin.
Comment se présente ce site? Comment vous l'avez trouvé d'ailleurs?
Alors on l'a trouvé dans le cadre d'un diagnostic archéologique, donc en préalable à la construction d'une zone d'aménagement concertée dans le quartier Renancourt à Amiens. On a profité en fait de cette ZAC pour multiplier les sondages parce qu'on savait qu'il y avait déjà eu une découverte 100 ans auparavant, découverte d'un site qui a malheureusement disparu, mais qui représentait l'un des rares témoins d'une période que l'on appelle le paléolithique supérieur ancien, donc qui est caractérisée par l'arrivée de l'homme moderne en Europe, entre moins 35 000 ans et moins 15 000 ans. Et dans un de ces sondages, à 4 mètres de profondeur, on a récolté donc de l'industrie lithique, donc des silex taillés, et puis de nombreux restes osseux. Et ces restes osseux nous ont permis d'avoir une datation carbone 14 qui montre que ce gisement date de 23 000 ans. Et les caractéristiques des silex taillés et de cette position stratigraphique, donc à 4 mètres de profondeur, nous ont permis de dire qu'on était en présence d'une nouvelle concentration de même type que celle qui avait été fouillée 100 ans auparavant par Victor Comon. Et donc on avait enfin l'opportunité de revenir sur ce gisement de première importance pour la compréhension des modes de vie de l'homme moderne durant la période glaciaire.
Alors Victor Comon, c'est une des très grandes figures, bien sûr, de la préhistoire française. On peut imaginer qu'il avait sûrement assez bien publié ce site, mais que toutes les données avaient été perdues.
Voilà, tout à fait. Les collections de Victor Comon, après sa mort, donc en 1918, ont été vendues puis égarées. Mais Victor Comon avait une qualité d'observation et de publication qui nous permettait, même sans avoir retrouvé l'industrie, de savoir que ce site était un des rares sites en stratigraphie et avec de nombreux vestiges qui pouvaient être attachés au paléolithique supérieur ancien.
Alors ce qui est très intéressant, c'est que votre habitat, il est pincé entre des mètres et des mètres de l'œuf, d'un seul coup, hop, une petite occupation.
Voilà, tout à fait. Donc l'épaisseur totale des l'œuf, ce sont des limons qui sont apportés par les vents durant la période glaciaire, est de 8 mètres. Donc on a 4 mètres de sédiments en dessous et 4 mètres de sédiments au-dessus. Et c'est bien là tout l'intérêt de ce gisement, c'est que le site a été rapidement recouvert par ces limons éoliens. Ce qui fait qu'il est parfaitement conservé et il nous révèle, l'étude de cette stratigraphie nous révèle toute l'histoire climatique de notre région entre moins 40 000 ans et moins 10 000 ans.
Et durant la période, il ne faisait pas très chaud.
Ah non, on est vraiment en période glaciaire. Alors les différentes études de ce qu'on appelle les bio-indicateurs, notamment les mollusques et l'étude générale de la stratigraphie nous montrent tout de même que l'occupation se place durant une micro-amélioration climatique, ce qu'on appelle un interstade. Donc avec une élévation de quelques degrés de la température, on est encore loin de ce que l'on connaît actuellement, on est actuellement dans une période tempérée, mais cette élévation de la température de quelques degrés a permis à ce que la végétation reprenne et à ce que les troupeaux d'herbivores reviennent, et ce qui a donné donc des conditions de subsistance suffisantes pour une implantation humaine.
C'est à peu près quoi, la température de Saint-Pétersbourg aujourd'hui ?
Voilà, tout à fait. On est sur des climats pour la bonne saison, ce qu'on appelle la bonne saison, des climats qui se rapprochent de Saint-Pétersbourg. Par contre, une période hivernale beaucoup plus tranchée, avec des périodes très très froides en hiver.
Et du mammouth.
Les troupeaux d'herbivores sont la faune qui peuple ces périodes, sont ce qu'on appelle la steppe à mammouth. Donc bien sûr, l'espèce la plus connue, c'est le mammouth. Mais on a également du rhinocéros laineux, on a également des chevaux, des rennes, des bisons, des steppes. Et donc ces trois dernières espèces sont les plus représentées sur les sites préhistoriques. C'est ceux qui ont été principalement chassés.
Vous avez un peu de mammouth dans ce site ?
Alors on a un objet qui est en ivoire de mammouth, c'est un outil qui a été travaillé, donc ce qu'on appelle un brunissoir pour travailler les peaux. Donc voilà, c'est pour l'instant l'unique objet en ivoire.
Vous avez fouillé quelle surface à l'heure actuelle ?
Alors à l'heure actuelle, on a fouillé 100 mètres carrés. On commence à comprendre un petit peu l'agencement de ce sol d'occupation. On estime 150 mètres carrés à peu près l'espace nécessaire à fouiller pour avoir l'entièreté de la concentration.
Vous êtes sur quoi ? Un habitat ? Vous avez des silex qui jonchent le sol ? On est sur une cabane ?
Alors on est sur une nappe de vestiges constituée donc des objets qui ont été laissés au sol lors du départ des Gravettiens. Ils ont été très peu bouleversés, ce qui est en fait tout l'intérêt du site, c'est-à-dire qu'on va pouvoir à terme reconstituer les différentes aires d'activité, mais pour l'instant on n'a pas encore l'entièreté des données pour permettre d'aller aussi loin et de savoir si on est sur une zone d'habitat ou sur une zone d'activité spécifique avec peut-être un habitat qui reste à découvrir. Donc voilà, mais on est donc sur une nappe de vestiges constituée notamment de nombreux silex taillés, de nombreux restes osseux. On est à plusieurs dizaines de milliers de vestiges actuellement récoltés. Et puis quelques objets qui sortent un petit peu du lot, des éléments d'ornement, des parures, et puis donc ces fameuses statuettes.
Je disais habitat, on pourrait être aussi tout simplement sur une simple halte de chasse.
Alors on pense qu'ils sont restés quand même plusieurs semaines, ce qui éloigne donc l'hypothèse d'une halte de chasse, tout simplement parce qu'avec les restes osseux, on sait qu'on a une dizaine de chevaux qui ont été tués, donc chassés probablement dans la vallée qui est juste à côté du gisement, et qui ont été traités et consommés sur place. Donc on estime qu'il y a quand même, ils sont quand même restés quelques temps. On est plutôt sur quelques semaines plutôt que sur quelques jours.
On peut définir la saison à défaut de définir l'année ?
Alors oui, grâce à l'étude des restes osseux, Jessica Lacarrière, qui est l'archéozoologue qui a étudié les os, estime que les chevaux ont été tués lors de la fin de la bonne saison, donc probablement à ce qui correspond à l'automne actuellement.
Vous avez plusieurs Vénus, ce qui est tout à fait exceptionnel. Des Vénus, on en connaît quoi, 10, 15 en France ?
Alors oui, en France, sur le territoire français, on en dénombrait jusqu'ici 15 qui étaient rapprochés de l'époque graécienne. En quelques années, donc depuis 2014, date de la première découverte, de la première statuette, on en a donc effectivement 15, donc on a doublé le nombre de ces objets en France.
La première était très belle.
La première était très belle et était la plus grande pour l'instant que l'on ait trouvée. Elle mesure 12 cm, mais elle est éclatée en 21 morceaux. Il manque d'ailleurs une partie de cette statuette, mais ça a été de toute manière la première surprise de ce gisement.
Vous avez d'autres fragments ?
Alors, en plus des statuettes avérées, des représentations féminines avérées, on sait qu'on a plusieurs autres fragments de rondes bosses qui, pour l'instant, sont indéterminés. Donc, on peut pas forcément dire qu'il s'agit de Vénus. Ça peut très bien être des représentations animales ou masculines, même si, pour l'instant, on n'a aucune évidence de ces deux types de représentations. Mais on sait qu'on a d'autres rondes bosses, mais le caractère fragmentaire de ces objets, on est sur de la craie qui gèle facilement et qui explose facilement. Et donc, pour l'instant, on n'a pas d'évidence de d'autres statuettes.
Elles auraient été cassées volontairement ?
Alors, c'est une hypothèse qui a été avancée sur certains sites russes, notamment, dans les années 90. On a mis en place tout un protocole pour essayer de déterminer si nous, à partir de nos statuettes fragmentées, on pourrait savoir si certaines ont été fracturées volontairement. Alors, le problème, c'est que la plupart ont été fracturées à cause du gel. Donc ça, on le perçoit très bien sur le site, mais la fragmentation volontaire, intentionnelle, donc le bris de l'objet, ressemble fortement à un bris, à une cassure lors de la fabrication de l'objet. C'est pourquoi on est en train de créer un référentiel expérimental, où donc on casse des fragments de craie pour essayer de déterminer si on pourra faire un jour la distinction entre une fracture volontaire et une fracture liée à la fabrication.
C'est pas trop dur d'essayer de remonter des Vénus qui sont en petits morceaux de calcaire ?
Alors c'est extrêmement compliqué. Ce sont des objets qui sont en 3D. Pour remonter fréquemment des silex taillés, c'est déjà très compliqué. Mais alors, c'est vrai que ces fragments de calcaire, de craie, sont très compliqués à remonter. Et ça va mettre de nombreuses années pour pouvoir aller à terme, pouvoir savoir à quoi ça représente.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous pensez, Clément Paris, être sur un atelier de production de Vénus gravétienne.
Voilà, alors ce qui nous permet de dire ça, c'est d'abord le nombre. 15 statuettes sur un seul gisement, c'est très rare. On dénombre que 5 ou 6 sites en Europe avec ce même nombre de statuettes. Et puis donc le nombre d'abord, et puis tout un protocole de recherche a été mené pour essayer de voir notamment d'où provenait la craie. Donc on sait maintenant, grâce à l'étude des nanofossiles, que la craie a été prélevée dans l'environnement immédiat du site. Et puis on sait également que de nombreux fragments de craie que l'on récupère présentent des stries, manifestement donc laissées par les outils en silex qui ont permis leur confection, que l'on classe dans la catégorie déchets de fabrication. Donc manifestement laissées sur place, et donc qui nous montrent que ces objets ont été fabriqués sur place.
Vous voyez au sol des répartitions cohérentes, des amas de calcaire, des fragments de Vénus ensemble avec des outils par exemple ?
Oui, on commence à percevoir l'organisation. On sait qu'il y a des endroits qui sont plus liés à la taille du silex, d'autres qui sont plus liés au rebut, aux déchets. Et on a une zone, une bande de 2 mètres de large environ, qui entoure une zone très très dense, et qui là où on récupère de nombreux outils et principalement les statuettes. Maintenant, on va essayer d'essayer de déterminer si certains de ces outils ont pu être utilisés par le sculpteur ou par la sculptrice pour réaliser ces objets.
Pourquoi des si petits modules, 4 cm, c'est minuscule ?
Alors effectivement, c'est ce qui surprend un petit peu. Alors, il faut savoir qu'on est quand même dans la moyenne de ce que l'on connaît pour les statuettes féminines. Les statuettes gravétiennes, en moyenne, mesurent entre 3 cm et 15 cm. Et, ici, c'est vrai qu'on est plutôt dans la fourchette basse pour la plupart des statuettes de Renoncourt. On est plutôt entre 3 et 5 cm. Donc ça, c'est vraiment une des particularités de ces objets. Mais on a d'autres statuettes qui, manifestement, sont plus grandes. La première, par exemple, a été trouvée à mesure 12 cm.
Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres représentations ? Là, on ne parle que de femmes. Il pourrait y avoir des hommes, des animaux ?
Sur les sites gravétiens ayant livré plusieurs statuettes, on a également souvent des représentations animales qui sont associées. Pour l'instant, c'est pas le cas. À Renoncourt, on n'a pas de représentation animale avérée. Les représentations masculines non plus, d'autant plus qu'elles sont rares pour le gravétien. On en connaît certaines pour le rhénanien. Et donc ici, pour l'instant, même en prenant en compte les nombreux ronds de bosses qui sont indéterminés, on n'a pas de représentation animale ni masculine.
Certaines porteraient de l'ocre ?
Alors une en particulier est ocrée, elle est donc colorée. L'ocre est d'ailleurs particulièrement bien conservée.
Alors, ce qui est très intéressant avec ces Vénus, c'est que on en a des Pyrénées à l'Ukraine. On est sur une sorte de caractéristique même de cette culture gravétienne.
Oui, alors on peut même aller plus loin, on peut même aller jusqu'en Russie, qui est un haut lieu, où, voilà, notamment autour de la vallée du Don, où il y a eu de nombreux sites avec des statuettes. Et toutes les statuettes ont les mêmes caractéristiques. Toujours ces attributs féminins très prononcés. C'est d'ailleurs la particularité effectivement de cette culture gravétienne, c'est que les statuettes sont toutes différentes, mais toutes identiques par certains canons esthétiques.
C'est-à-dire qu'elles sont toutes stéatopiges, des hanches larges, des fesses larges, des dessins volumineux, des têtes minuscules.
Voilà, tout à fait. Alors les têtes sont pas forcément minuscules, mais en tout cas sont sans détail anatomique, avec la tête légèrement penchée vers l'avant, et puis toujours les bras atrophiés, mais effectivement, oui, des attributs féminins très prononcés.
On en connaît combien à peu près, en tout et pour tout, dans cette Europe un peu large?
Alors pour la culture gravétienne, on dénombre entre 100 et 150 statuettes, en sachant qu'il y en a beaucoup qui sont attribuées aux gravétiens, mais qui n'ont pas de contexte bien précis, pas de contexte chronologique, pas de contexte stratigraphique, et donc ils sont rapprochés par du gravétien avec ses attributs féminins bien prononcés, donc le style de la statuette.
Alors ce qui est aussi extraordinaire avec ce site de Renancourt, c'est que en général, on ne les trouve jamais en stratigraphie.
Non, notamment pour les Vénus d'Europe occidentale. Elles ont souvent été trouvées anciennement, notamment à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, avec des manières de fouilles plutôt brutales. Donc souvent pas de relevé stratigraphique, pas de chronologie, ce qui est un petit peu problématique. On sait que l'ambiance est gravétienne, hein, de par les outils qui ont été récoltés à côté, mais donc il nous manque de nombreuses informations. Et ces informations-là, on les a à Amiens-Renancourt, grâce aux fouilles modernes, grâce à la qualité de conservation de ce gisement.
Clément Paris, à l'heure de MeToo, comment se positionne un préhistorien découvrant des Vénus?
Je sépare complètement la période actuelle de ce qu'ont voulu représenter les sculpteurs durant l'époque gravétienne. Hein. Bon, il faut savoir que toutes les hypothèses qui ont été avancées autour de ces représentations ont tout le temps été imprégnées par les combats sociétaux du moment. Par exemple, à la fin du 19e siècle, on avait beaucoup d'hypothèses concernant des recherches raciales, ensuite des hypothèses entre deux guerres qui tournaient plutôt autour de représentations pornographiques. Donc tout cela a été bien entendu abandonné. Et puis, dans les années 70, sont apparues les hypothèses de déesses mères et de sociétés matriarcales. Ça aussi, ça a été plutôt mis de côté actuellement, tout simplement parce que les études ethnologiques des sociétés subactuelles nomades montrent que c'est quand même un élément relativement rare, hein, des sociétés matriarcales sont très peu représentées. Et donc actuellement, l'hypothèse là, qui est souvent avancée, c'est que ces Vénus représentent une expression de la femme et plus particulièrement de la fécondité.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Marcelotte, vous êtes en ligne de Liège, vous connaissez bien entendu très bien le site de Renancourt. Cette Vénus serait un élément identitaire de cette culture gravétienne qui se développe entre 28 000 et 22 000 ans?
Dans le gravétien, il y a des périodes où il n'y a pas du tout de ces statuettes. Elles apparaissent donc vers 23 000, donc à la phase récente de ce gravétien. Ce qui est curieux, c'est qu'elles traversent toute l'Europe depuis l'Oural jusqu'aux Pyrénées, hein, cette période-là, comme un signe de religiosité, non seulement homogène, mais qui se manifeste de la même manière sur un immense territoire, ce qui montre bien qu'il y a eu des liens, non seulement religieux, mais aussi démographiques, des contacts à très longue distance pour que le mythe, mais en même temps le style, persiste sur une aussi grande distance. Ça paraît extrêmement intéressant. C'est une sorte de démonstration de ce que nous savions, nous, en tant qu'archéologues, sur l'unité de la culture gravétienne. On la connaît, bien sûr, par son outillage, principalement par son monde de chasse, son monde d'habitat. Mais là, on a une indication complémentaire qui est cette relation religieuse à des formes des formes particulières qui expriment ce culte de la fécondité, par exemple. En tous les cas, un pulpe féminin qui est très stéréotypé, hein, que le roi Gouran avait bien montré dans la différente structure de la forme qui se retrouve partout. Ce qui est particulier, déjà à Renancourt en général, c'est que on assiste à un atelier. Donc, on n'a pas tendance à interpréter ça comme un site d'habitat habituel, puisque ni rituel, puisque les objets sont fabriqués. Dans quelle mesure sont-ils aussi utilisés à des fins rituelles ? Au même endroit, c'est une question à débattre. Donc, celle-ci, elle est particulièrement élaborée. Elle est complète, d'abord, c'est comme n'était pas le cas des précédentes. Et d'autre part, elle a une décoration du sommet du torse, de la tête, de la nuque, de la face. Tout ça se recouvre de tresses, que j'interprète comme des tresses, par comparaison avec ce qu'on a un peu partout, à Gagarino, par exemple, dans le sud de la Russie, au Parabiba, en sud de l'Italie, ça ressemble fort, à l'Espug. On dirait qu'il y a une volonté de cacher les traits du visage, par opposition à ce qui est très ostensiblement montré dans les hanches, la poitrine et même ici les bras. Donc il y a une opposition entre ce qui est très réaliste et ce qui est à peine suggéré. Alors l'ensemble montre bien qu'on n'a pas voulu faire un personnage réel, quoi. On a voulu faire un type idéalisé, puisque c'est toujours les mêmes et qu'elles ont à peu près les mêmes proportions. Et en plus, on dissimule les traits du visage. Alors moi j'interprète ça en termes anthropologiques dans des choses qu'on connaît assez souvent en Afrique et en certaines régions d'Asie méridionale dans lesquelles les femmes, les jeunes filles à la puberté doivent se dissimuler. Alors elles portent des tresses à longueur de journée mais pendant l'initiation ces tresses sont rabattues vers l'avant. Alors peut-être s'agit-il d'une allusion à cette situation biologique particulière dans laquelle la jeune fille entre dans la société et est prête à procréer, comme les détails ici sur la statuette le suggèrent clairement. C'est devenu une femme et peut-être que lors de cette cérémonie, on brisait ces statuettes comme les autres de Renancourt ont été brisées. Comme c'est le cas un peu partout en Europe, généralement, les statuettes ont la base brisée, on n'a plus que le torse, quoi. Et donc c'est peut-être lors de la cérémonie d'initiation, lorsqu'on manifeste cette aptitude à la procréation, que non seulement les statuettes sont brisées rituellement, mais qu'aussi on dissimule leur visage afin qu'elles soient anonymes, comme les jeunes filles, Maasai par exemple, en Afrique orientale, le font aussi lors de l'initiation.
À défaut d'y voir une sorte de sexualité débridée, vous y voyez plutôt donc des instruments d'initiation. Il s'agit bien sûr de symboles graphiques et de représentations, on va dire même iconiques. Elles seraient forcément le témoin d'une sorte de pensée symbolique.
Ah oui, bon, le symbole ne fait pas l'ombre d'un doute, bien sûr, puisque nous avons affaire à des formes symboliques depuis que l'homme est l'homme. Un outil implique l'usage de symboles, c'est-à-dire d'un raisonnement qui précède la réalisation de l'outil. Donc tant qu'il est dans l'abstraction, il est dans le niveau symbolique, en effet. Dans le poétique supérieur, il ne fait pas l'ombre d'un doute, dès que les images apparaissent, les symboles s'imposent dans toute leur évidence. Ce n'est plus une abstraction. Donc là, c'est sûr. Maintenant, la relation à la sexualité n'est pas évidente. Même dans cette statuette, on voit des attributs qui sont typiquement féminins, c'est entendu, mais il n'y a pas d'accentuation vers la position érotique, par exemple, ou vers l'accentuation des traits vaginaux. Tout ça est quand même très dissimulé. C'est d'ailleurs toujours le cas dans le paléolithique. Rien qui soit vraiment explicitement sexuel, quoi qu'on en dise. Ce sont des suggestions. Et ceci exprime davantage la femme que la femme procréatrice ou la femme qui va éventuellement éveiller l'appel sexuel. C'est au niveau de l'image uniquement et donc de l'icône. Et le fait qu'elle soit toujours comme ça à travers toute l'Europe confirme bien cette idée de neutralité, si je puis dire, dans la figure féminine. Ce qui est paradoxal d'ailleurs parce que dans tous les cas que nous connaissons dans cette période-là, ce sont des femmes. Il y a une seule statuette à ma connaissance qui soit explicitement masculine.
Marcelotte, il faut peut-être aussi les comparer à l'art rupestre, celui bien sûr des espaces cavernicoles, notamment la très belle grotte de Cussac.
Oui, évidemment quand on passe de la statuette, comme ici en trois dimensions, à une surface plane, en tout cas d'une grotte, on n'a plus affaire qu'à des figures en deux dimensions. Donc fatalement, l'artiste a dû choisir un profil. Donc forcément, là, il y a une abstraction beaucoup plus forte lorsqu'il s'agit d'une figure réalisée sur une paroi que dans une statuette que nous pouvons tourner dans la main et que l'on peut ainsi présenter sous différentes faces et lui donner du mouvement il y a un temps induit par la manipulation de la statuette, qui est tout à fait absent, bien sûr, dans une gravure ou une peinture pariétale. Donc là, il y a un choix. Mais dans les deux cas, il y a le choix et l'orientation vers la figure féminine, précisément, et non masculine, à nouveau. Mais là, on ne voit que le profil, donc ce n'est plus qu'un signe dans le cas de Cusack. C'est beaucoup plus élaboré du point de vue sémiologique, puisque c'est grâce à l'analogie que l'on sait que c'est une femme. Analogie avec des choses beaucoup plus représentatives. Tandis que là, on a directement la représentation au sens strict des figures. Elle apprend beaucoup plus de poids, de réalité, parce qu'elle est en trois dimensions et qu'elle est manipulable et qu'elle est surtout transportable. On peut donc la changer de milieu.
En plus d'un siècle de recherche, pourquoi les préhistoriens nous proposent-ils le plus souvent des modèles, des interprétations assez désuètes autour de cet art préhistorique ?
Je crois que c'est parce que c'est lié à la science de préhistoire. C'est-à-dire que c'était surtout des archéologues, et ce sont encore surtout des archéologues aujourd'hui qui travaillent. Donc, ils n'ont peut-être pas la formation en anthropologie nécessaire, ou bien en histoire des religions, ou en philosophie des religions. Lorsqu'on représente une femme, ce n'est pas n'importe quelle représentation. On voit bien que dans toute la mythologie occidentale, par exemple depuis l'époque chrétienne ou bien au néolithique, on voit réapparaître des figures féminines qui chaque fois possèdent un sens théologique particulier. La reproduction ou bien le passage de l'état divin à un état humain. Et inversement, donc c'est le cas au néolithique où c'est très clair, puisque les statuettes féminines, là, sont faites avec de l'argile, l'argile qui par ailleurs est utilisée pour l'agriculture. Donc c'est un signe sur un signe. Donc à chaque fois qu'il y a une représentation, quelle qu'elle soit, il y a évidemment une signification métaphysique qui doit y être liée. Mais l'habitude dans le milieu des archéologues n'est pas d'élaborer par rapport à l'anthropologie, ce qui est regrettable, puisque l'anthropologie, surtout religieuse, possède des lois strictes. On ne représente pas n'importe quoi pour n'importe quelle raison, c'est toujours avec un but particulier. Or, là, on touche à des universaux, comme on dit, c'est-à-dire à des comportements qu'on retrouve partout sur la Terre, à peu près aux mêmes époques. On peut même comparer avec la culture Yomon, par exemple, dans le nord du Japon, où au même moment, entre guillemets, on voit apparaître des figures féminines également, ou même en Amérique centrale. Donc c'est toujours au moment où l'esprit cherche à conquérir les forces naturelles qu'il se représente et qu'il représente en particulier l'acte fondamental qui est celui de la survie et de la naissance. Donc il y a un rapport étroit à établir entre les deux, bien entendu.
Marcelotte, merci beaucoup. Je rappelle aussi que la Vénus de Renoncourt aura prochainement sa rue à Amiens. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Valentin Azan-Zielinski et avec bien sûr la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons la bande des Tarterets qui a désormais 15 000 ans.